VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bien, bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 15 février 2016. À la une ce soir.
Violence au Burundi, un enfant tué à Bujumbura. On compte aussi une trentaine de blessés lors de ces attaques, d'après les autorités.
Le ministre de la Sécurité publique a donné le bilan de 32 personnes blessées sur des attaques menées dans 5 places différentes de la capitale, au nord et au centre de Bujumbura.
En Ouganda, l'interpellation du candidat à la présidence, Kizza Besigye, illustre les défis de l'opposition à 4 jours du scrutin.
Retour sur le second tour de la présidentielle en Centrafrique.
Je souhaite fortement que nous puissions prendre la vitesse de croisière pour que dans les 48-72 heures prochaines, nous puissions déjà passer carrément la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.
Un responsable de l'autorité nationale des élections. Grève générale illimitée en Guinée, Conakry avait l'allure d'une ville morte aujourd'hui.
La Turquie accuse la Russie de se comporter comme une organisation terroriste en Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nouvelles attaques à Bujumbura. 32 personnes ont été blessées ce matin dans 5 différents lieux de la capitale burundaise. Le gouvernement affirme que des terroristes criminels ont tué un enfant de 11 ans. Il s'agirait du 4e enfant assassiné en 10 jours. Les autorités appellent les malfaiteurs à se désolidariser des criminels et la police indique qu'elle ne restera pas les mains croisées devant une telle violence. Le point avec Christophe Kourounziza, notre correspondant à Bujumbura.
Pour la première fois, une conférence de presse est tenue ce matin dans une station essence où venait d'être jetée une grenade ayant fait 8 blessés. Le ministre de la Sécurité publique y a donné le bilan de 32 personnes blessées sur des attaques menées dans 5 places différentes de la capitale, au nord et au centre de Bujumbura. Un enfant de 11 ans a également trouvé la mort au marché chez Sioni. Mais dans d'autres endroits de la capitale, plusieurs personnes ont été blessées, dont quelques-unes grièvement. Le bilan pourrait s'alourdir d'une minute à l'autre. Alain-Guillaume Bougnoni affirme que cette criminalité utilise des méthodes terroristes. Il a indiqué que ces fauteurs de troubles ne vont plus narguer indéfiniment les forces de l'ordre. Des mesures particulières seront prises pour traquer tous ces criminels qui tuent des enfants et des femmes, sont le responsable numéro 1 de la sécurité publique. Depuis 10 jours, 8 personnes avaient été tuées, dont 4 enfants, suite à des attaques dans plusieurs localités de Bujumbura. 63 personnes avaient été blessées. Depuis les élections de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat contesté par une partie de l'opposition, plus de 400 personnes ont été tués. Plus de 250 000 Burundais ont trouvé refuge dans les pays de la sous-région. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Alors que les violences persistent, le dialogue inter-burundais reste au point mort. L'Union européenne, premier donateur du Burundi, a fait savoir aujourd'hui qu'elle pourrait suspendre son aide directe au gouvernement. La pleine participation du gouvernement de Pierre Nkurunziza dans le dialogue est essentielle, rappelle le ministre européen des Affaires étrangères.
En République centrafricaine, après le double scrutin d'hier, les yeux sont désormais tournés vers l'autorité nationale des élections. Les opérations de dépouillement sont terminées depuis hier soir. Les procès-verbaux continuent d'arriver au centre de traitement des données. Les précisions de Freeman Sibila.
Jusqu'à ce lundi, tous les procès-verbaux et autres matériels électoraux de Bangui et une partie de l'intérieur du pays sont acheminés au centre de traitement des données. Selon l'Autorité nationale des élections, ANE, la publication des résultats provisoires et partiels du second tour de la présidentielle, bureau de vote par bureau de vote, pourra se faire dans les prochaines 48 heures. René Sakanga Moruba, président de la commission logistique à l'ANE.
On vient à peine de commencer, nous ne savons pas quelle est la vitesse de traitement de ces différents procès-verbaux qui viennent des bureaux de vote et des centres de vote des 8 arrondissements de Bangui. Mais bon, je souhaite fortement que nous puissions prendre la vitesse de croisière pour que dans les 48-72 heures prochaines, nous puissions déjà passer carrément la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, puisque c'est ce que prévoit la loi.
De l'avis des observateurs internationaux et de la société civile centrafricaine, malgré quelques dysfonctionnements constatés, ces élections ont été bien organisées, donc crédibles. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
À N'Djamena, la capitale du Tchad, des centaines de personnes ont manifesté ce matin, exigeant que justice soit rendue à leurs condisciples enlevés et violée par un groupe de 7 jeunes, tous des enfants de hauts cadres de la République. Un reportage à suivre un peu plus tard dans cette édition.
République démocratique du Congo, Martin Fayulu a été libéré hier soir après plusieurs heures de détention à Kinshasa. Le député d'opposition avait été arrêté dimanche par des agents de la détection militaire des activités anti-patrie devant le siège de son parti. Monsieur Fayulu estime avoir été enlevé et détenu abusivement.
Rue vide, bureaux, commerces et banques fermées. Conakry et d'autres localités en Guinée avaient ce lundi l'allure de ville morte au premier jour d'une grève générale illimitée à l'appel des syndicats. On fait le point avec John Lennon.
Rue vide, bureaux, commerces et banques fermées. Pour lui, Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, il n'y a rien à dire. Cette grève est suivie à 100%. L'USTG est l'une des coalitions ayant appelé à l'arrêt de travail avec la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, la plus importante du pays. Ces centrales syndicales exigent notamment la baisse des prix des carburants et la satisfaction des revendications salariales. Un déploiement policier important était visible à travers la capitale. Les écoles et universités sont fermées, tout comme les transports en commun, les banques, boutiques et commerces, y compris le marché de Madina, le poumon économique de la capitale. La même paralysie était aussi visible à l'intérieur du pays. En janvier 2015, les syndicats avaient déclenché une grève générale illimitée pour réclamer des augmentations des salaires dans les secteurs publics et privés. Ils avaient mis fin à leur mouvement dès son deuxième jour, après avoir trouvé un accord avec l'État.
Réforme sur le mandat présidentiel au Sénégal. Le chef de l'État, Macky Sall, devrait rendre public l'avis du Conseil constitutionnel demain. Le projet prévoit une réduction du mandat de 7 à 5 ans. Une mesure à effet immédiat qui contraindrait l'actuel président à n'effectuer qu'un quinquennat.
Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre turc Ahmet Davutoğlu a accusé la Russie de se comporter comme une organisation terroriste en Syrie. Il a brandi la menace d'une riposte turque extrêmement résolue. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Monsieur Davutoğlu a déclaré lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Kiev que la Russie et l'organisation État islamique en Syrie sont coupables de nombreux crimes contre l'humanité en poursuivant leurs attaques barbares contre la population civile dans ce pays. Selon lui, l'intention de Moscou est de tuer le plus grand nombre de civils, de soutenir le régime syrien et de poursuivre la guerre. Pour rappel, l'aviation russe soutient depuis début février l'offensive du régime de Bachar al-Assad contre le bastion rebelle d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Ces frappes ont entraîné la fuite en direction de la frontière turco-syrienne de dizaines de milliers de personnes que la Turquie a installées dans des camps du côté syrien de la frontière. À noter aussi qu'avant ces accusations de M. Davutoğlu, le ministère russe des Affaires étrangères avait publié un communiqué se disant gravement préoccupé par les bombardements menés par l'artillerie turque sur les positions kurdes en Syrie pour la troisième journée consécutive.
Du gaz moutarde a été utilisé en août en Irak lors de l'attaque de deux villes à proximité d'Irbil, la capitale du Kurdistan. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi à l'AFP des sources proches de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Selon les autorités kurdes, ces attaques avaient été menées par les djihadistes du groupe État islamique.
La Grande-Bretagne restera-t-elle dans l'Union européenne? La question est au cœur de rencontres aujourd'hui à Paris entre le président du Conseil de l'Europe Donald Tusk, le premier ministre britannique David Cameron et d'autres dirigeants de la zone euro. Les efforts diplomatiques se multiplient avant un sommet européen en fin de semaine. Donald Tusk, qui s'est entretenu avec le président français François Hollande à l'Élysée, a dit espérer la signature d'un accord lors de ce sommet pour éviter un Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
La police bahreïnie a arrêté 4 journalistes américains assurant la couverture de l'anniversaire du mouvement pro-démocratie réprimé par les autorités il y a 5 ans. Selon la police, les quatre Américains, une femme et 3 hommes sont entrés dans l'émirat la semaine dernière, prétendant être des touristes. Ils sont accusés accusé d'actes illégaux, y compris des activités journalistiques, sans la permission des autorités compétentes. Leur identité n'a pas été révélée. Pas de réaction de l'ambassade américaine à Bahreïn, qui affirme être au courant de ces arrestations.
Le président Barack Obama accueille aujourd'hui en Californie les dirigeants des 10 pays membres de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Un sommet historique que devraient dominer les questions commerciales, mais aussi la sécurité régionale et la lutte contre l'extrémisme violent.
Personne n'est au-dessus de la loi et l'ex-premier ministre israélien Ehud Olmert peut en attester. Il est devenu aujourd'hui le premier ancien chef de gouvernement israélien à être incarcéré. Connu pour son goût du luxe, Ehud Olmert a découvert l'austérité de la prison où il purgera une peine de 19 mois pour corruption, 18 mois pour avoir reçu des pots de vin et un mois pour entrave à la justice. On lui a tout de même permis d'entrer dans la prison par une porte arrière afin d'éviter les équipes de télévision.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
11 grandes entreprises mauriciennes participent depuis aujourd'hui ici aux États-Unis à la foire du textile et de l'habillement, la plus importante exposition tenue à la côte ouest de Las Vegas. Plus de 1100 entreprises de plus de 40 pays ont pris part à cette rencontre. L'enjeu, pousser le renouvellement à long terme du marché coffret AGOA jusqu'en 2025. Entre janvier et septembre 2015, l'île Maurice a généré 5,2 milliards de roupies provenant de ses exportations vers les États-Unis pour les textiles et vêtements. Le géant français de l'assurance AXA vise les futures classes moyennes des pays émergents. Il compte déjà 5 millions de clients, principalement en Afrique australe et orientale, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Tanzanie et Ouganda, ainsi qu'au Ghana. AXA vend à l'aide des mobiles des assurances liées à la vie, à la santé, à l'agriculture, ou bien aux accidents et aux violences politiques destinées aux consommateurs à revenus faibles et intermédiaires. Les opérateurs Telecom et Yatel, Tigo et MTN, ainsi que le Kenyan Equity Bank et la Britannique Barclays collaborent avec l'assureur français. Enfin, un avion cargo américain transportant des millions de rangs sud-africains imprimés en Allemagne a atterri d'urgence à Harare pour un problème technique, a dit l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Zimbabwe. Mais aucune information n'a filtré sur le montant de cet argent liquide.
Merci Eric.
L'actualité sportive avec Bagassi Koura. Alors Bagassi, on commence en football en France. Laurent Blanc
on dit bonsoir d'abord.
Ne digère pas les propos de l'attaquant ivoirien Serge Aurier. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a indiqué ce lundi avoir très mal pris les propos injurieux de son défenseur Serge Aurier qui ont fait polémique et ont déjà valu au joueur une mise à pied à titre conservatoire. Je trouve ça pitoyable, a poursuivi l'entraîneur, alors que l'international ivoirien de 23 ans l'a notamment traité de mots inacceptables dans une discussion avec des internautes samedi soir sur l'application Periscope. Je me suis vraiment engagé auprès de ma direction pour le faire venir. Et vu ce que j'ai vu, les remerciements que j'ai eus, je trouve ça pitoyable, a développé Laurent Blanc. La polémique chérubin autour du dérapage d'Aurier tombe au plus mal alors que le PSG reçoit demain Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
Faisons un saut près de 7 ans en arrière pour parler de ce Sierra Leone impliqué dans un match truqué aux Pays-Bas.
Oui, ça finit toujours par vous rattraper. Les faits remontent à 2009. Un match du championnat des Pays-Bas a été truqué par le joueur Ibrahim Kargbo pour le compte de parieurs basé à Singapour, ce que l'on apprend de la Fédération néerlandaise de football après un an d'enquête. Le Sierra Leonais Ibrahim Kargbo, alors au milieu de terrain de Willem II de Tilburg, au sud des Pays-Bas, avait un accord avec Wilson Raij Perumal pour truquer le match contre FC Utrecht le 9 août 2009, selon la même source.
Ligue des champions en Afrique, match de ce week-end.
Eh bien, dans l'ensemble, les favoris ont pu tirer leurs épingles du jeu. En déplacement, les Congolais de l'AS Vita Club ont écrasé les Mafunzo de Zion Zanzibar 3-0. forfait de Mochoudi, chief de Botswana, face au Ferroviaro de Maputo en Mozambique. 1-0 pour les Chicken Inn, ça c'est un nouveau nom pour moi, de Zimbabwe, face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Retenez bien ces mots, hein, Chicken Inn.
Et tous les joueurs mangent du poulet, je présume.
Et plein feu sur les Coupes africaines, hein, c'est tout à l'heure dans Sporama.
C'est à 19h, temps universel sur VOA Afrique, avec l'unique Bagassi Koura. Encore une fois, bonsoir Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il neige à Washington, on espère que vous êtes au chaud là où vous êtes. Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, Niamey.
Présidentielle au Niger, donc. Les électeurs choisiront dimanche prochain entre 15 candidats. Parmi eux, le président sortant, Mahamadou Issoufou. En revanche, on ne compte aucune femme candidate. La moitié de la population du pays est pourtant composée de femmes. Comment expliquer leur absence? La question posée par notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se lance cette année aussi dans la course au fauteuil présidentiel, comme elle l'a fait en 2011, une première dans l'histoire démocratique du Niger, Madame Bayar Mariama Gamache a décidé de ne pas se présenter pour bien deux raisons.
Je ne fais pas de la figuration pour crédibiliser une élection, parce que c'est une mascarade d'élection que la Renaissance est en train d'organiser. C'est un régime démocratique qui organise des élections démocratiques. Il ne s'agit pas d'élections démocratiques ici. Je n'ai pas la garantie que ça va se faire avec un régime qui refuse le consensus, avec un régime qui viole systématiquement les lois, avec un régime qui veut s'imposer par la force. Donc je n'ai pas confiance en cela. Donc quand les règles de jeu sont pipées, même si vous allez aux élections, vous ne pouvez rien avoir.
Ni elle donc, ni une autre n'est candidate à la présidentielle de dimanche prochain. À la coordination des ONG et associations féminines du Niger, on a quelques explications. Madame Kaka Fatouma est la présidente.
Le premier facteur, d'abord, il y a la question d'autonomie financière. Parce qu'il faut avoir les moyens, surtout que le montant est un peu élevé. Il y a le deuxième facteur aussi, le problème socioculturel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, au Niger, si une femme se présente candidate au présidentiel, on trouve ça ridicule. Mais moi, j'ai dit que ce n'est pas ridicule, c'est leur façon de voir les choses. Pourquoi pas? On le fait ailleurs, pourquoi pas au Niger? Le troisième aspect est lié aussi au problème de terrain. Vous savez très bien qu'au Niger, nous sommes confrontés à beaucoup de questions d'insécurité. Et qu'aujourd'hui, peut-être que la femme ne peut pas vraiment affronter le terrain.
Candidate indépendante en 2011, Madame Bayar Mariama Gamache, qui avait recueilli moins d'1% des suffrages, a décidé de mettre en place entre-temps un parti politique qui, cette année, va soutenir un des 15 candidats à l'élection du dimanche prochain.
Nous avons décidé d'accompagner Hamma Amadou pour plusieurs raisons. D'abord, pour sa stature d'homme d'État. Pour son expérience, nous pensons qu'avec lui, on va mettre un terme vraiment à cette renaissance vraiment qui est en train de violer la Constitution, qui est en train de tordre le cou à la démocratie.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Tchad, manifestation spontanée des élèves de quelques lycées de la capitale ce matin pour demander que justice soit rendue à une jeune fille enlevée et violée par un groupe de 7 jeunes garçons, tous enfants de haut cadre de l'État. Ces manifestants ont été dispersés par la police nationale à l'aide de gaz lacrymogène. Bilan, 1 mort et plusieurs blessés. On fait le point avec André Kodmajingar.
L'information circule sur les réseaux sociaux depuis 48 heures. La jeune fille, âgée de 17 ans environ, élève en classe de terminale G1, a été kidnappée le 6 février tôt le matin lorsqu'elle partait à l'école par ce groupe de jeunes présumés kidnappeurs appartenant à des familles de haut cadre de la République. Après avoir abusé de son intimité, ils ont posté la photo de la victime filmée au moment où l'action se déroulait sur les réseaux sociaux pour montrer leur bravoure. Une situation qui a mécontenté ses condisciples. Ils ont programmé une marche pacifique ce lundi matin pour exiger l'arrestation et le jugement de ses présumés auteurs. Alerté, la police nationale a mis la main sur deux de ses présumés auteurs et les a présentés à la presse le dimanche soir. Une manière de dissuader ses camarades de sursoir à la marche. Sur la demande de la police nationale, la victime lance un appel à ses condisciples séance tenante en ces termes.
Merci aux élèves qui m'ont soutenu. Merci à mes parents, tout le monde. Comme vous voyez, ils m'ont presque sauvé. Ils m'ont déjà trouvé des solutions. Et je vous demande de ne rien faire, d'aller en cours et de rester fort comme je le suis en ce moment. Et l'affaire est entre les mains de la justice. Et merci pour votre encouragement.
Connaissant les méandres de la justice tchadienne, une association des femmes osant la réussite et le combat pour l'équité a organisé une marche pacifique ce lundi matin, allant du domicile familial de la victime situé dans la commune du 4e arrondissement au palais de justice, distant de 4 km environ, brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire « Justice pour notre compatriote ». Quelques minutes plus tard, ce groupe de manifestants a été rejoint par des élèves des lycées Tchelam Tchelam et ceux de la Liberté qui scandaient le même slogan. Malheureusement, ils ont été très vite dispersés par la police. Béchir Ali, membre de la famille, déplore le comportement des éléments de force de l'ordre ayant occasionné un mort et un blessé.
Cette manifestation ne va pas à l'encontre d'une personne ou d'une ethnie donnée. Une manifestation de ras-de-bol d'un comportement qui se pérennise. Et une voiture inconnue qui a tiré sur un des manifestants et ce manifestant a été conduit à l'hôpital chinois et il vient de décéder à l'état où on parle. Il y a une fille qui est fracturée à travers le tir de la commission des policiers. On rend la justice à la fille. Que ce mort-là ne soit pas mort en vert.
Pour beaucoup d'observateurs, le président Déby, qui vient d'être promu à la tête de l'Union africaine et qui prône la protection des droits humains, ne devra pas laisser ce crime impuni. André Kodumatingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Haïti, un nouveau président. Le Parlement haïtien a élu hier avant l'aube Joslerm Privert, président pour un mandat de 4 mois. Sa mission principale, achever le processus électoral reporté sine die le mois dernier suite à une vague de protestations violentes de l'opposition politique. Joint à Port-au-Prince, le journaliste et ancien aspirant à la présidence, Clarence Renoir, relève l'un des défis auxquels fera face le nouveau au chef d'État haïtien, la durée de son mandat.
C'est là le défi. Moi, je ne pense pas, hein, personnellement, je le dis, je ne pense pas que les 120 jours vont suffire pour faire tout ça. C'est un pays qui connaît une crise démocratique. Ce n'est pas une crise électorale uniquement, c'est une crise de l'implantation de la démocratie à laquelle ce pays fait face depuis 30 ans. À mon avis, il faudrait plus de temps pour remettre certaines institutions en place et se rassurer qu'elles puissent fonctionner, permettre à ce régime d'entrer dans les habitudes, dans les mœurs politiques en Haïti.
Juste avant son élection, Joslerm Privert a promis la poursuite du processus électoral. Cela implique quoi, selon vous, Clarence Renoir?
Alors là, c'est très compliqué. Poursuivre le processus électoral, ça voudrait dire continuer avec le processus là où il s'était arrêté, à l'arrêt du 24 janvier, le 22, quand le Conseil électoral avait dit qu'il ne pouvait pas faire les élections, donc il faudrait créer les conditions pour faire les élections. Est-ce qu'on va continuer avec le processus avec les deux candidats qui étaient arrivés en tête? Ou bien est-ce qu'on va faire ce que les autres partis ont demandé, les autres candidats ont demandé, réévaluer le processus électoral? Donc c'est un vrai défi. Et là, je crois qu'il va falloir que le prochain gouvernement, le président provisoire, montre sa capacité à réunir toutes les forces politiques et à les mettre en confiance pour pouvoir effectivement soit continuer avec le processus ou relancer tout le processus électoral. De toute façon, il faut qu'il y ait un président légitimement élu par le peuple à travers des élections crédibles, honnêtes et démocratiques.
Joslerm Privert, qui a gagné avec son élection, Clarence Renoir? Quel secteur politique?
Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si la démocratie a gagné, mais Privert est identifié comme un ancien ministre du mouvement Lavalas. Et la plupart du temps pendant lequel il a dirigé, il était au service de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut voir les choses en termes de camp qui a gagné? qui doit gagner, c'est le peuple haïtien qui doit gagner dans l'amélioration de ses conditions de vie, mais aussi c'est la démocratie qui doit gagner parce qu'il faut définitivement prendre les mesures qu'il faut, mettre les institutions en place pour faire fonctionner la démocratie. Non seulement permettre aux Haïtiens de pouvoir s'exprimer, d'appartenir à n'importe quel parti politique, mais aussi de respecter ses droits socio-économiques, donc améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Donc, c'est ce qu'il faut souhaiter, pas la victoire d'un camp contre un autre, mais la victoire de la démocratie et par conséquent la victoire du peuple haïtien.
Clarence Renoir, ancien candidat à la présidence, journaliste en Haïti. Merci Clarence.
Merci.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le week-end a été animé par un grand festival de la paix. Les organisateurs du festival Amani, paix en Swahili, croient que l'art a un rôle à jouer dans la construction de la paix dans une région minée par 20 ans de conflit. Reportage de Charlie Kazereka.
Plus de 20 artistes internationaux et régionaux ont presté durant 3 jours au festival Amani. Devant un public venu de toute la province du Nord Kivu, ils se disent tous prêts à accompagner la paix dans une région secouée par des troubles politiques et sécuritaires. Parmi les têtes d'affiche, il y a les chanteurs congolais de la RDC, Weranson, les Brazzavillois Zao et le Sénégalais Ismaëlo, chanteur mondialement reconnu. S'est dit convaincu par la force de la jeunesse congolaise et croit à la paix à l'est de la RDC. Ismaëlo.
C'est tellement magnifique de voir tout ce beau monde danser et chanter avec moi. C'est des moments inoubliables. Parce que le public que j'ai vu aujourd'hui, je m'attendais à un public beaucoup plus grand, mais je pense qu'il y avait une belle jeunesse, c'est 25 ou 30 ans. Donc quelque part, ça veut dire que ça nous donne encore espoir que peut-être d'ici 50 ans encore. Je pense que ma vision aujourd'hui et mon combat, c'est de voir l'Afrique devenir un pays. C'est l'unité africaine, c'est la paix, que les âmes se taisent.
Dans Akaranga, les groupes des tambourinaires du Burundi, loin de leur capitale, les Bujumbura, leurs tambours ont chanté l'hymne de la paix devant plus de 11 000 festivaliers venus de toute la région des Grands Lacs. À côté de la musique, l'art culinaire s'ajoute à la fête de la paix. Pour Eric Delamotte, l'organisateur du festival Amani, paix en Swahili, ce festival permettra aussi d'échanger l'image que le monde entier a sur Goma et tout l'est de la RDC.
Notre objectif est de promouvoir la paix et la réconciliation ici dans une région qui a connu quand même pendant 20-30 ans des guerres, des viols de femmes, etc. Et nous voulons montrer qu'il existe autre chose et qu'ici il y a une génération, des millions de jeunes qui sont là et qui aspirent à un avenir meilleur.
Lancé en 2013, le festival Amani pour cette 3e édition a réuni plus de 30 000 festivaliers pendant 3 jours. Loin des problèmes et séquelles quotidiennes de la guerre, le festival offre un espace de fête sous le slogan « Chanter pour la paix, danser pour changer ». Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times.
C'est la fin de cette émission, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, présentation Morgane Diriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On se retrouve sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.